Nous avons ouvert notre cœur, nos cœurs pour l'adorer. Nous laissons l'Esprit Saint aussi parler à nos cœurs, afin que sa parole ait du sens aujourd'hui. Je vais m'appuyer sur l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 14, histoire que vous connaissez, on en a parlé déjà. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il les laissera aller tout de suite. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna pour les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il, celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, de Galilée. » Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il leur dit « Il est écrit « « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. » Des aveugles et des infirmes s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. Nous vivons une belle matinée, celle que nous offre le Seigneur par ce culte qui réunit nos églises respectives. C'est une rencontre aussi joyeuse que décalée, comme celle dont nous parle ce passage de l'Évangile. Car vraiment se rassembler, c'est un signe, c'est une grâce, et il témoigne de ce Jésus qui donne place à celles et ceux qui ne sont pas sous les projecteurs. Et ce texte de Matthieu est assez particulier parce que il vient entraîner le psaume 24 dont nous avons parlé, tout en lui donnant une inflexion vraiment différente. Alors, cette réunion de nos églises, bien différentes les unes des autres, en ce dimanche des rameaux, c'est l'expression de la foi que nous plaçons en Dieu et de Jésus-Christ qui nous appelle à le suivre, à l'adorer, à le proclamer. C'est donc un geste qui construit notre identité de chrétien, de disciple, d'aimé de Dieu, en nous reliant à nos racines judéo-chrétiennes. Le côté juif, parce que en tant que disciples de Jésus, nous le suivons. Et le voici qui arrive à Jérusalem pour célébrer la Pâque avec des milliers d'autres juifs de la région et même des expatriés qui viennent ce jour-là. Il se prépare à vivre cette fête ancienne et toujours renouvelée de la libération de l'esclavage, de l'exil ou de la morte saison. Et puis le côté chrétien, parce que les rameaux brandis ou mis sur le chemin devant l'âne. Autour de Jésus, tous ceux qui chantaient ce jour-là, eh bien, ils ont pris leur sens véritable pour les disciples du Christ, bien après la Pâque, en souvenir de son entrée paradoxale à Jérusalem. Ce n'était pas une fête juive, la fête des rameaux. C'est vraiment une fête chrétienne. Vous connaissez donc cette entrée à Jérusalem, cette entrée tonitruante, plus puissante encore que ce que faisaient nos musiciens tout à l'heure. Mais tout comme nous aimons bien remanger des menus appréciés, réécouter une histoire fait aussi du bien. Matthieu écrit que Jésus arrive de Bethphagée. Et vous vous souvenez de cet immense hangar au sommet du mont des Oliviers, sur lequel est écrit avec un beau logo « Lorifig ». Eh bien, c'est par là que Jésus arrive. C'est la route qui monte de Jéricho, la route sur laquelle des bandits laisse les gens à moitié morts. Vous savez, ce n'est pas la Nationale 7, sauf peut-être en ce temps de Pâques. Mais ce chemin n'a rien à voir avec l'avenue des Champs-Élysées. Et ce n'est pas un arc de triomphe que franchira Jésus pour entrer dans la ville de David, même si on a chanté le psaume 24 avant. Porte, élevez vos linteaux. Les deux portes triomphales se trouvent au nord et à l'ouest de la ville. Et c'est par là qu'entre les personnalités, les fidèles, à cheval sur les règles de pureté qu'exige cette grande fête de la Pâque. C'est par là qu'est entrée aussi l'armée romaine. Quant aux portes du sud et de l'est, elles sont fréquentées par la foule de ceux qui sont moins regardants par leur métier ou leurs habitudes, leur fréquentation des païens, ces goyims, tout au long de l'année. Et ce jour-là, il en est de même, ça n'a pas changé. D'ailleurs, la foule qui acclame, elle n'attendait pas Jésus comme on attend un champion sur la ligne d'arrivée. C'est un cortège dans lequel se trouve déjà Jésus. Depuis Jéricho, quelques kilomètres plus loin, quelques heures de marche plus loin, et qui s'est peu à peu gonflé, en particulier à Béthanie, et qui est formé de pèlerins juifs venus de Galilée, de Transjordanie, des refuges et des maquis autour de la mer Morte. Cette foule est bigarrée. Elle est hétéroclite, davantage encore que nous ne le sommes, lorsque nous nous regardons. Et vue de Jérusalem, c'est une populace. Des gens simples, avec quelques enfants, bien sûr, des juifs et des prosélytes, mais aussi des black blocs, ou amis de Barabbas, des disciples de Jean-Baptiste, des sans-papiers et des malades porteurs de virus divers et variés. Cette foule dans laquelle Jésus marche a pourtant aussi quelques bourgeois et quelques riches, comme peut-être Zachée et ses amis, collecteurs d'impôts, ou la famille de Jacques et de Jean. Tous sont regardés avec méfiance par leurs frères et sœurs de Jérusalem, parce qu'ils vivent au milieu des non-juifs et qu'ils n'appliquent que partiellement les prescriptions de la pureté cérémoniale. Aujourd'hui, nous sommes un peu comme cette foule. Nous nous retrouvons de trois communautés différentes, au moins. Trois officielles, s'il y en a qui viennent d'ailleurs, tant mieux, gloire à Dieu. Et nous faisons un bout de chemin ensemble. Nos horizons sont divers. Nos habitudes dans le domaine spirituel ne sont pas les mêmes. Nos attentes morales, religieuses, sociales sont multiples et s'expriment de manière différente d'une communauté à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un individu à l'autre. Et parfois, nous nous opposons sur ces questions-là. Et marcher ensemble, c'est pourtant possible, parce que Jésus est là. Jésus est là. Nous adorons le Christ, Jésus. Nous proclamons qu'il est le Seigneur. Nous attendons son règne. Nous irons jusqu'à partager le pain et le vin. Car c'est lui, Jésus, qui nous a rassemblés. Et non pas un accord doctrinal ou un accord de pureté rituelle, ni l'arbitraire du pouvoir humain, du pasteur qui vous parle, ou d'un autre. La foule a ralenti pour observer la ville depuis le sommet du mont des Oliviers. Waouh, Jérusalem, quelle joie quand on m'a dit « Allons à Jérusalem ». Elle chante peut-être un ou plusieurs psaumes démontés à ce moment-là. Jésus en profite pour faire amener une ânesse et son petit sur laquelle il s'assied. Jésus organise son apothéose à sa façon. Il veut donner un message quant à son rôle de guérisseur et de messie. Il est connu pour ça. Il ne domine pas la foule comme sur un cheval. Et quand on dessine un âne qui fait dépasser Jésus de trois têtes, c'est un peu exagéré. Regardez les ânes au Moyen-Orient, les gens touchent les pieds par terre quasiment, quand ils sont assis dessus. Son véhicule n'est pas fait pour parader, ni s'imposer à la ville de Jérusalem, mais pour évoquer le roi selon le cœur de Dieu. Ton roi vient plein de douceur, écrit Matthieu en citant Zacharie. Il n'a rien de ce super-héros salvateur au regard de feu, à la parole flamboyante. Ce n'est pas du cinéma. La douceur. La foule sent bien qu'il se passe quelque chose et s'écrie « Hosanna pour le fils de David !» Mais Jérusalem a les pieds sur terre, pourrait-on dire. C'est qui, lui? Qui est ce roi qui vient? La réponse présente l'autre face de la pièce. Où c'est le prophète Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée, celui qui fait du bien partout où il va. Ah oui? Mais regardez-le. Un Galiléen, habillé comme un paysan, perché sur une ânesse, lui, un prophète, c'est à voir. Mais le fils de David, l'envoyé du Seigneur. Allons donc. Et Jésus continue de nous étonner. Pendant 3 ans, il a refusé de recevoir les louanges des gens. Et voilà qu'il improvise un triomphe avec les petits, les exclus, ces pèlerins qui le suivent depuis Jéricho. Cette foule l'acclame comme un roi et le fait entrer à Jérusalem, accompagné par des hosannas bruyants. Et lui, Jésus, ne bronche pas quand il est désigné dans ce cortège par ce titre de fils de Dieu, fils de David, pardon. Seul le Messie, le sauveur du peuple d'Israël, pouvait porter ce nom-là. Personne d'autre. Et voilà que Jésus accepte de recevoir le nom le plus haut et le plus fort qui existe dans le judaïsme. Avait-il un sourire? Avait-il des larmes? Ou les deux? Nous, nous sommes habitués par cette entrée 2000 ans plus tard. Et on en fait des fêtes comme celle d'aujourd'hui, avec la joie, et nous avons raison. Mais la messe et son anon disent que ce geste que Jésus a pris demeure au cœur de sa manière de gérer son règne, post-mortem aussi. Jésus s'entoure des symboles de la simplicité et de la modestie. Il transmet la grâce, la compassion aux exclus de la société, dont il accepte les hommages, même s'ils sont ambigus, comme ce jour-là. Il fait entrer avec lui, dans le temple, ces pèlerins poussiéreux, impurs et méprisés, en brisant le système financier instauré pour contrôler et exploiter le peuple. D'une caverne, il en fait une maison. Et il redonne à ce lieu de culte pour quelques heures son sens véritable, celui de la prière, celui de l'accueil, celui de la guérison. Et ici, nous dit Matthieu, des aveugles et des boiteux sont dans le temple. C'est inadmissible pour un juif. Et ces pèlerins impurs qui n'ont pas pris le temps de se purifier. C'est le monde à l'envers. Il faudra nettoyer le temple, le purifier tout à nouveau. On est à côté de la plaque, complètement. Et que ce soit ces boiteux et ces aveugles que Matthieu cite, c'est un appel à ouvrir les yeux sur l'œuvre du Messie. Non dans la furie des combats, mais dans la douceur de celui qui marche au milieu des petits, quel qu'il soit, depuis le fond de la vallée de Jéricho jusqu'à la maison du Père, même s'ils sont encore impurs aux yeux des dominants et de ceux qui gèrent la religion. Frères et sœurs, lorsque nous suivons Jésus-Christ sur son ânesse, nous apprenons le sens de sa royauté fondée sur la douceur, la grâce, la patience, et non sur la conquête et l'occupation de la vie d'autrui. Notre temps et notre société ont besoin d'entendre et de voir des hommes et des femmes appliquer ce mode de vie. L'ânesse et son petit annoncent vers qui sa royauté messianique est tournée. Et elle profile déjà la croix. Une folie pour tout pouvoir exercé au milieu des êtres humains. Et parfois nous nous laissons avoir par ce qu'il propose. Apprenons donc, frères et sœurs, comme les aveugles et les boiteux, à rencontrer sur nos routes et dans la maison de prière ce roi doux et humble de cœur pour recevoir la guérison dont nous avons besoin et proclamer à notre tour « Hosanna pour le fils de David. Sauve maintenant, toi, fils de David. » Amen.